rendez-vous.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui.
Rendez-vous?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre nouveau rendez-vous pour une émission à trois doigts ce soir, de Django Reinhardt bien sûr, à la veille de la sortie en salle de Django, le film dont vous êtes le héros, Reda Kateb, bonsoir.
Bonsoir.
Donc ce soir c'est jazz, c'est swing, c'est j'ai la guitare qui me démange, même si c'est une autre histoire, avec plein d'invités pour ces deux heures de direct, 22h minuit, ici même au studio 621, en plein cœur de la maison de la radio. Django dans l'histoire, Django en 43 sous l'occupation allemande, le swing, musique dégénérée, c'est l'angle d'attaque de votre film, Étienne Comard. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Guillaume McNin, c'est le coach guitare de Reda Kateb. Bonsoir.
Bonsoir.
Et musicien par ailleurs. Et puis un fou de jazz, Noël Balin. Bonsoir. Vous
Bonsoir,
êtes l'auteur de Django Reinhardt, le génie vagabond, une bio, et puis de l'Odyssée du jazz aux éditions Liana Levy. Du live, il en sera question bien sûr dans quelques instants avec vous.
Valérie, oui, c'est le grand retour de Jill Kaplan. Elle est accompagnée ce soir par le guitariste Roman. Entre autres.
C'est d'actualité.
Exactement.
Et puis comme chaque mardi, on finira cette première heure avec votre questionnaire pour le meilleur et pour le pire de la musique, Valie.
Oui, c'est sur la scène avec Alain Chamfort.
C'est une autre histoire aussi. 23h le journal, 23h15, on revient avec le NRV La Suite. Et La Suite, c'est le second tour, Christophe Bourseillet.
Oui, alors vous me direz, c'est pas très original de parler des élections, du premier tour, du second tour, du troisième tour et du quatrième tour. Mais on va essayer de le faire d'une façon un petit peu paradoxale. Ça s'appelle d'abord élections, zut alors, point d'interrogation. Bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Il y aura surtout un philosophe, François de Smet. Il y aura un réalisateur de documentaire. Il a fait toute une série sur comment devenir
président, gagner les
élections, comment gagner une élection, Benjamin Carl. Et puis une historienne spécialiste de l'extrême droite, Valérie Igounet.
Eh ben on se retrouve tout à l'heure.
Oui, j'espère.
Et nous, à tout de suite.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et puisqu'il sera question de musique toute la soirée, enfin cette première partie, on commence tout de suite en live, Valie.
Gilles Kaplan est de retour avec Imparfaite, c'est son premier album en 10 ans. Imparfaite, moi je dirais plutôt impeccable, impeccable depuis son costume cravate dans les années 80 jusqu'au choix de musiciens qui l'entourent, de Jay Alansky en passant par J.P. Nataf et aujourd'hui l'autre innocent, Jean-Christophe Urbain. Mais la vraie nouveauté, c'est sa rencontre avec Roman, guitariste virtuose de jazz manouche, prof et maître de Thomas Dutronc et proche du petit-fils de Django Reinhardt. C'est avec lui
quelle
que...
programmation.
Ah non, mais
merci
attends,
Marion Guilbeault.
On a vraiment fait des choses bien. C'est avec lui que Gilles Kaplan a coécrit les morceaux de ce nouveau disque. Ça swing, c'est sûr, ce soir sur France Inter. Le premier titre s'appelle Les chevaux sauvages.
C'est difficile. Les chevaux sauvages.
Merci.
C'est pas les chevaux
live ce soir.
Les cheveux.
Parce que vous pouvez dès à présent vous connecter sur la page Facebook de l'émission.
Exactement. C'est Gilles Kaplan sur France Inter. C'est à vous.
Que faisaient nos chevaux sauvages? Comment se passait leur temps? Dans leur enclos, chevaux bien sages, mais l'impatience du pur sang. Comment s'est ouverte la cage sur ces deux insolents? La plaine s'est faite grand large, ils ont couru droit devant. Comme on en connaît. connaît pas tant. La plaine s'est faite grand large, ils ont couru droit devant. Que faisaient nos chevaux sauvages? Comment se passait leur temps? Dans leur enclos, chevaux bien sages, mais l'impatience du pur sang.
Et Jean-Christophe Urbain au guitare. Elle revient pour un deuxième titre dans quelques instants.
Et on leur posera plein de questions, oui, justement sur ce jeu très spécial.
Le nouveau rendez-vous.
Pour moi, Django était le diable de la guitare. Ce sont des dons qui arrivent une fois tous les siècles.
Sur France Inter.
Et c'est Stéphane Grappelli qui le disait. Demain, ça va swinguer sur les écrans, sorti en salle de votre premier film, Étienne Comard, Django, avec dans le rôle titre vous, Reda Kateb, qui jouait de la guitare. On va y revenir avec vous, son coach Guillaume Aknin. Mais d'abord, quelques mots du film. On est en France, sous l'occupation allemande. Django est un musicien reconnu, une personnalité fêtée, un génie de la musique qui compose. Mais l'histoire va jouer contre lui. Ses frères tziganes sont persécutés pendant que lui est fêté. Et sa musique commence à poser problème. Il y aurait même de la censure dans l'air. Et le film raconte un tournant dans la vie de Django, au moment même où les nazis exigent qu'il vienne jouer en Allemagne. Ira-t-il ? Bande-annonce.
Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing.
You've got a name, haven't you?
Oh yeah, I've got a name, yeah. My name is Django.
Je te présente le lieutenant Dietrich von Schultz. C'est notre docteur jazz.
Goebbels, de vous voir jouer à Berlin.
Non, j'irai pas.
Depuis le mois de mars, il y a eu beaucoup d'arrestations de tziganes. Mais s'ils n'obéissent pas, ils sont abattus sauvagement.
C'est pas ma guerre, ça.
Django, tu dois fuir. Ce qu'ils préparent dans l'ombre est abominable. Django est un musicien unique. Pas encore composé de très belles choses.
C'est mon homme. Oubliez-le.
Écoute comme c'est beau.
Ça fait 2 mois que je pars d'ici. Tu devais nous faire passer en Suisse.
Je suis là avec ma famille à attendre un signal pour passer. C'est jamais le bon moment.
J'y crois plus à vos promesses.
Si ils te capturent, ils te tueront.
Vous connaissez la musique au moins?
Non.
Étienne Comard, quand vous choisissez de filmer Django de l'occupation à la libération, qu'est-ce que ça vous permettait de dire? Parce que c'est pas innocent pour un premier film.
En fait, non. Je voulais raconter justement faire le portrait en fait d'un musicien dans un monde un peu en crise, un monde qui évidemment subit un peu la barbarie des hommes. Et justement, comment on survit à ça? Comment finalement la musique, sa musique à laquelle il s'accroche malgré tout pendant cette période, peut l'aider à survivre, et voilà. Et c'était ce parcours musical qui m'intéressait.
Mais qu'est-ce qui vous lie, vous, à cette histoire pour en faire un premier film? Quand on fait un premier film, c'était un geste important.
D'abord, la musique de Django, que j'aime. Et puis...
Que vous connaissiez?
Oui,
depuis longtemps?
Oui, quelques années quand même. Mon père avait des disques de Django, j'aimais sa musique, je l'écoutais, j'étais quelqu'un qui aimait son son, sa sonalité, sa vitalité. Donc ça a été important pour moi et je voulais raconter ça.
Vous comprenez cette période, le choix de cette période, Noël Balin, parce que c'est une période dont on parle très peu, même dans votre livre. J'ai regardé, il y a quelques pages qui sont consacrées à Django sous l'occupation jusqu'à la libération.
Alors moi j'ai pas vu le film, je vais me précipiter demain pour aller le voir. Et je comprends qu'on puisse choisir comme ça une période charnière, phare, et en même temps effectivement pas si importante que ça dans la vie de Django. Mais le choix est pertinent. Et puis, de toute façon, il y a la licence poétique. On fait ce qu'on veut.
Exactement.
On scénarise comme on veut. Et voilà, on adapte selon sa sensibilité.
Qu'est-ce qu'on sait de cette période et de Django, en fait?
On sait beaucoup de choses, mais il y a toujours un tas de flou dans la vie de Django. Il y a même des moments, pour un biographe, ça c'est pénible, on perd sa trace pendant 6 mois. Il faut aller recueillir une interligne dans un journal obscur. On a aperçu Django dans les Alpes avec sa roulotte et sa femme. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et après, il faut retirer le fil. Alors là, quand il arrive à Thonon-les-Bains, en fait, il
parce qu'il
fuit.
A donc, il a fui Paris, il fuit les contrats oui. que l'Allemagne veut lui imposer.
Il est protégé à Paris. Il est complètement protégé. Et c'est là vraiment que sa carrière explose et qu'il devient une vedette dont on a du mal à s'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un mélange de Rihanna et de Madonna.
C'était une star totale.
Ouais. Absolue. Et aussi bien en Allemagne, entre les guerres, qu'aux États-Unis, partout. Donc il est la référence et il n'a jamais gagné autant d'argent, il n'a jamais eu autant de concerts. Tout se passe bien, il est protégé par les officiers allemands qu'il aimait avant-guerre. Et c'est curieux parce que lui, il traverse ça avec une certaine innocence. Il est complètement dégagé de toute préoccupation idéologique. Il est dans la musique, il n'est que musique, il ne vit que pour ça. Et il traverse avec une certaine ingénuité. Cette période fastueuse.
Alors ça, c'est la vérité historique. C'est comme ça que vous l'avez travaillé.
Bah, j'ai l'impression que ce que vous,
ouais,
ce que vous décrivez, c'est à peu près ce que j'ai raconté dans le film. Hein. Je crois que c'était ça qui était l'idée. Et donc, ne montrer pas quelqu'un qui était effectivement engagé politiquement, mais qui était engagé dans son art.
Exclusivement.
Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Et donc,
surtout à une période où on apprend quand même que pendant l'occupation, la vie des artistes était plutôt trouble. Au bord de la collaboration, c'est ce que l'on apprend.
Oui, la propagande Staffel était très très vigilante et elle a pas mal utilisé les artistes populaires. En les envoyant notamment en Allemagne. On sait que les écrivains y sont allés, mais également des chanteurs.
Il y a plein de chanteurs qui sont des musiciens aussi, dans tous les sens.
Et donc,
Et des acteurs aussi.
On va dire les artistes et les intellectuels sont sollicités.
Vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette période, Réda Kateb?
J'avais vu un beau documentaire justement sur les artistes pendant l'occupation, dans lequel j'avais appris que les théâtres, les salles de concert n'avaient jamais aussi bien tourné à Paris qu'à cette période-là.
Parce qu'il faisait froid aussi, on s'y chauffait là.
Ouais, je crois qu'il y avait
l'été 43, c'était un des étés les plus chauds de Paris. Donc,
pour l'été 43, c'est certain.
Ah oui, ça c'est vraiment, c'était les records de thermomètre, donc les salles étaient quand même pleines avec de la chaleur.
Les salles étaient pleines pour la chaleur, parce que c'était finalement aussi un terrain de plaisir pour les Allemands, parce que les Parisiens sous l'occupation avaient besoin effectivement de se réchauffer. Et il y a plein de postures d'artistes dans cette période. Il y a celle de Fernandel qui va manger au Cercle avec les Allemands, qui fait des pubs à Radio Paris. Il y a celle de Django qui joue sa musique. Et il y a celle de Jean Gabin qui part s'engager avec Leclerc dans les chars. Celle d'Arletty aussi qui dit mon cœur est français, mon cul est universel.
Et en même temps, c'est très difficile pour un artiste finalement. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il meurt de faim? Il continue son métier. Il faut pas qu'il se compromette. Il faut pas qu'il aille faire n'importe quoi.
Mais j'ai jamais pensé que
quand le public est vert de gris, il est vert de gris, quoi.
C'est sûr. C'est pour ça que cette question de la compromission de l'artiste parce qu'il joue devant tel ou tel public, c'est une chose moi que je ne comprends pas. C'est-à-dire que nous, on fait des films, le public n'est pas contrôlé à l'entrée des salles, et je suis sûr qu'il y a des gens peu recommandables qui viennent voir des films dans lesquels je joue.
Mais pendant la guerre, le jazz était quand même réprimé et il y avait un mouvement de résistance par le jazz. Là, je m'adresse plutôt à Noël Balin, qui était le mouvement Zazou. Est-ce qu'on peut dire que Django Reinhardt faisait partie du mouvement Zazou ou pas du tout?
Il est le maître absolu vraiment de la communauté musicale parisienne, ça certain, et européenne. Le mouvement Zazou, c'est encore autre chose. C'est porté par Johnny Hess, le partenaire de Charles Trenet. C'est un mouvement qui s'inspire du swing américain de Cab Calloway, notamment. Et il se trouve que c'est pas réprimé. C'est simplement qu'il y a un subterfuge chez le syndicat des musiciens. C'est qu'un morceau comme Saint Louis Blues devient la nostalgie de Saint Louis. Il francise absolument tous les noms et ça reste le même répertoire parce qu'on considère, chez les Allemands, que c'est une musique judéo-nègre.
Exactement, pas que chez les Allemands. Par exemple, le cri du peuple chez Radorio, on trouve une définition lapidaire du swing, d'irythmie morale et organique accréditée par des nègres convulsifs de la Nouvelle-Orléans et des affairistes juifs de Broadway. C'était quand même ce que l'on disait à l'époque. Juste une question sur, non pas la vérité historique, mais justement les licences que vous avez prises avec Étienne Comard. Le film va fictionnaliser des faits. Je je prends l'exemple du concert à la Villa Amphion devant les Allemands. Donc, il est à Thonon-les-Bains et puis il va devoir jouer devant les Allemands pour une grande soirée. Le concert a eu lieu, mais ce que vous racontez, le concert a eu lieu, ça c'est un point de vue historique, mais vous racontez autre chose. Vous basculez du côté de la fiction. Je ne vais pas dévoiler ce qui est raconté. Parce que
j'aime la fiction. Mais
justement.
On essaie toujours de me dire, alors la fiction.
Eh oui.
Et vous en avez mis un peu dans votre film. Mais dans tous les films, que ce soit les biopics, il y a de la fiction. Quand j'ai écrit Des hommes et des dieux, il y a de la fiction. Vous voyez, donc si vous ne lâchez pas, c'est un débat. Je comprends.
C'est
un non-débat.
J'allais même pas y aller, mais ouais. Vous y allez tout seul.
Non, mais vous me questionnez dessus. Non, mais
il n'y avait même pas de question. Pour l'instant, c'était juste.
Je sens comme une. Bon, il faut toujours se justifier de la fiction. Non, j'aime la fiction et je crois que vraiment c'est pour ça que j'ai en plus choisi une période où il y avait peu de choses historiquement
exactement,
sur lui. C'est pour ça que en plus, quand on traite que deux années de l'histoire d'un personnage, on est obligé finalement de créer des choses. Et ouais. Ça m'intéresse beaucoup plus que d'aller faire, si vous voulez, la fictionnaliser la vie documentaire de quelqu'un. Donc c'est vraiment ça que je revendique tout à fait dans le film. Et c'est vrai qu'il y a des partis pris. Mais en même temps, la fidélité, elle est avant tout au personnage, elle est avant tout à ce qu'il a vécu à cette époque. C'est aussi une période de transition dans sa vie parce qu'il passe d'une musique swing extrêmement légère à un projet qu'il veut accomplir depuis des années, qui est ce requiem, cette messe pour ses frères tziganes, et qui finalement arrive à maturité, à la libération de Paris. Donc c'est aussi montrer que même si derrière des apparences où il avait l'air de ne pas être résistant, de ne pas être préoccupé par tout ça, finalement, et pour en avoir discuté avec le petit-fils de Django, David Reinhardt, ou avec Alain Antonietto, qui ont fréquenté Babik Reinhardt, son fils direct, ça a été une période extrêmement dure pour eux, même si derrière tout ça, il avait l'air d'être un personnage fantasque, léger, il y avait derrière une mélancolie très sombre, très profonde, et je crois qu'on a toujours...
C'est très juste.
Et en même temps, je pense que les auteurs, les créateurs ont le droit vraiment d'aller où ils veulent.
Ah, mais il y avait. C'est très étrange, je n'allais même pas jusqu'au bout de ma question, mais c'est parfait.
Mais c'est intéressant de le rappeler, et je pense que Étienne a raison. Ouais. C'est qu'en fait, quand on est historien, exégète, etc., on est un peu l'emmerdeur de service, et je ne veux pas du tout être ça. Hein. Donc je peux rétablir des faits, mais en même temps, on est complètement libre d'aimer le personnage et de faire une lettre d'amour au personnage.
Alors justement, comment on joue Django Reinhardt? Parce qu'il y a très très peu de documents sur lui. Ça doit être encore plus facile pour vous, Reda Kateb. Peu de documents.
Bah justement, quasiment comme un personnage de fiction. Ah. En fait.
Il y a quand même un détail qui est intéressant et que l'on voit, parce qu'il y a une attention qui est portée au costume, à sa moustache. On le voit très souvent à la toilette. Et il y a un détail très frappant à un moment donné, c'est son amour pour Clark Gable, qui est manifeste dans le film. Et je me suis demandé si ça vous avait aidé, un acteur comme ça, qui sait que le personnage qu'il va jouer est amoureux d'un autre acteur. Est-ce que ça vous a aidé?
Ça m'a beaucoup plus aidé que si j'avais eu des tonnes de vidéos pour imiter la gestuelle de Django ou des tonnes de... Moi, toutes ces disparitions, par exemple, ces 6 mois de disparition biographique, c'est une aubaine pour moi. C'est 6 mois d'imaginaire, en fait.
Donc, et pour un scénariste aussi, j'imagine. Il disparaît 6 mois.
Donc ça veut dire que vous avez regardé des films de Clark Gable?
Ça veut dire que je me suis documenté, évidemment. Ouais. J'ai rencontré des gens qui avaient connu des gens qui avaient connu Django. Ce qui était intéressant, c'est que d'ailleurs, tous avaient plus ou moins des signaux assez contradictoires.
Qui vous avez rencontré, par exemple? Donc le petit-fils, peut-être?
Ouais. Voilà, ouais. Lui, et puis, quand je vous dis des gens qui ont connu, donc si vous voulez...
Oui, c'est vrai.
Mon ami Slimane Dazi, voilà, qui avait connu un des aïeux de Django et qui avait travaillé avec lui dans la brocante à l'époque. Mais sans m'attarder voilà sur ces détails-là. En tout cas, à chaque fois, il y avait quasiment tout le temps des signaux contradictoires. On me disait une chose,
du style,
qu'est-ce qu'il était humble, et une autre fois, qu'est-ce qu'il était orgueilleux, qu'est-ce qu'il était généreux, et qu'est-ce qu'il était pingre, et qu'est-ce qu'il était sûr de lui, et qu'est-ce qu'il était timide.
Moi, j'ai fréquenté, moi, je suis plus vieux que vous, donc j'ai fréquenté vraiment les témoins directs. Voilà. Charles Delaunay, son producteur.
Il était pingre.
Non, il est claqué énormément.
Il était pingre avec ses musiciens.
Il était pingre avec ses musiciens qui l'ont quitté d'ailleurs.
Oui, en même temps, c'est plus compliqué que ça.
Oui, en fait, c'est toujours plus compliqué.
C'est toujours très compliqué. Et donc Charles Delaunay, son producteur qui était près de lui, Babik, j'ai produit un des albums, je connais bien son fils, etc. Donc, j'ai vraiment eu des trucs très contrastés de gens très directs avec lui. Effectivement, pour un acteur, mais c'est formidable ça d'avoir un personnage aussi complexe.
Absolument.
Alors, des documents sonores, il y en a plein, des disques, mais il y a aussi quelques rares entretiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on interview Django Reinhardt, c'est pas vraiment facile. On voit là une journaliste en complète jet lag.
Eh bien, Benny Goodman est à Paris, mais Django Reinhardt est aussi à Paris et il va jouer vendredi, je crois, n'est-ce pas,
oui,
Django
Reinhardt? Oui, nous allons essayer de jouer ensemble.
Vous allez jouer ensemble?
Oui.
C'est la première fois?
C'est la première fois, oui.
Vous n'avez jamais eu l'occasion de vous rencontrer sur
une... Oui, à New York, je l'ai rencontré au 400 Club, mais je n'avais pas le droit de jouer là-bas.
Et cette fois-ci, vous avez le droit tous les deux de jouer ensemble?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous allez jouer?
On ne sait pas, on va peut-être improviser deux, trois morceaux comme ça.
Au petit bonheur?
Oui.
Vous n'avez pas répété, vous n'avez rien préparé à l'avance?
Si, une répétition
jeudi. Jeudi, au Palais de Chaillot aussi?
Oui, au Palais de Chaillot, oui.
Eh bien, vous êtes en France depuis quelque temps. D'où venez-vous exactement?
De Rome.
Et vous aimez Rome?
J'adore Rome.
Mais vous aimez Paris aussi, j'imagine?
Ah, encore mieux.
Je vous vois tous rire, il faut avoir une batterie de questions, hein, et au bout d'un moment, de l'imagination pour poser les questions, puisque chaque fois, c'est une question, une réponse. Vous voyez, c'était une commande.
Ah oui, oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est aussi dit avec une simplicité, voilà, c'est l'économie des mots, comme l'économie des notes,
hein. Ouais.
Il y a la même précision, et en même temps, et il contrebalançait ça aussi par son instrument, par sa guitare, c'est-à-dire qu'il parlait avec sa guitare.
Ouais.
Donc, il n'avait pas besoin forcément de parler avec des mots, et je crois que, toutes les manières, quand on rencontre les tziganes et la communauté d'une façon générale, on voit que ce sont des gens qui ont beaucoup de pudeur, qui en même temps une vraie distance et complication aussi parfois avec le langage, hein, c'est pas quelque chose de facile. Il y avait aussi ce complexe aussi de l'illettrisme quand même qui était très fort chez lui. Donc tout ça faisait qu'il sentait qu'il y avait un monde au-dessus de lui, le monde à laquelle il a accédé, qui était bien plus, je dirais, vaste et évidemment avec une culture beaucoup plus grande que la sienne. Donc je crois que c'était très intimidant aussi quelque part pour lui.
Alors on va parler de musique dans quelques instants. On va reparler de musique et justement, avec le jeu de Reda Kateb, puisque c'est lui qui joue dans le film, c'est peut-être pas forcément lui qu'on entend. On en parlera avec son coach musical Guillaume Aknin, qu'on n'a pas encore entendu. Mais tout de suite, place, et bien encore la musique en live. Vali, le retour.
Oui, sur le plateau du studio 621 de Gilles Kaplan qui présente les titres de son nouvel album ce soir. L'album s'appelle Imparfaite, elle est accompagnée de Romane, Mathieu Châtelain et Jean-Christophe Urbain au guitare. Et puis, qui vois-je derrière? Il y a quelqu'un?
Quelle comédienne?
C'est Lambert? Oh, dis donc, je ne savais pas que vous étiez aussi musicien. En tout cas, le morceau s'appelle...
Mais qui est Lambert?
C'est un travailleur très proche de Jean-Louis Aubert, entre autres, et avec Gilles Kaplan. Donc, le morceau s'appelle En attendant que tu reviennes, Gilles Kaplan, dans le nouveau rendez-vous sur France Inter.
En attendant que tu reviennes, du lit j'ai changé les draps, mis tes affaires à la scène, et des choses qui n'attendent pas, qui n'attendent pas. Petit homme au petit songe, plus une larme ne coulera. Je me lave de tes mensonges, je dialyse mon sang de toi. En attendant que tu reviennes, que dit ma peau, que disent mes veines, que je ne veux plus de ta sueur fine. Tu m'as faite chauve reine, tu m'as rendu buisson d'épines. Oh, mais je ne veux plus que tu reviennes, je ne veux plus que tu me tiennes, je ne veux plus que tu me prennes, plus respirer ton haleine. Je ne veux plus être ta chienne, je ne veux plus que tu m'entraînes. Oh, 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 oh. Je mets du rimmel à mes cils, du rouge vif sur ma bouche, mais je ne serai plus ta facile. Je ne veux plus que tu me touches, que tu me touches. En attendant que tu reviennes, un autre s'occupe de moi. Le matin dans son lit je traîne, à sa main je mange et je bois. En attendant que tu reviennes, que dit ma peau, que disent mes veines, que je ne veux plus de ta salive. J'en ai bu tout le kérosène, tu me prennes. Plus respire ton haleine. Je ne veux plus être ta chienne. Je ne veux plus que tu m'entraînes. Oh, je ne veux plus. Je ne veux plus un cheveu de toi, ni entendre le son de ta voix. Oublier le moindre détail de ton corps, de ta tenaille. Je ne veux plus que tu me touches, ni ressentir tes secousses. Oh,
Washa et Warner.
Exactement, chez Washi Washa.
Elle sera en concert le 16 juillet à La Rochelle et le 28 septembre à Paris au Trianon.
Venez nous rejoindre, tous les deux, Romane
prise
et
de
Gilles
son,
Kaplan.
Alexandre Chenet, Serge Viguier et Gilles Gaillard. Et puis à la vidéo, parce qu'on est aussi sur Facebook, la vidéo c'est Gwenola Masson. Alors Gilles Kaplan, pourquoi avoir choisi Romane pour ce retour après 10 ans d'absence, en tout cas en discographie?
C'est le hasard, d'une part.
Bah, pas mal comme hasard.
Ouais, moi comme j'adore.
Ça, vous êtes tombé dessus.
On me l'a présenté. Voilà, j'avoue qu'avant de connaître Romane, je connaissais en jazz manouche, je connaissais Django Reinhardt parce que mon père adore Django Reinhardt. Hein. Mais sinon, je suis pas du tout spécialiste de ça et jamais j'aurais imaginé faire ce disque-là. Donc on s'est rencontrés parce qu'on a été présentés par. Des amis éditeurs, hein, c'est ça, Romane, hein, en gros.
Ouais,
voilà.
Oui,
et puis, puis voilà, puis on a infusé chacun de notre côté, et puis je lui ai envoyé un texte, il a composé, ça m'a tout de suite vachement séduite. C'était acrobatique, ça me changeait de la pop, enfin bon, ça me sortait un peu de mes pantoufles, quoi.
Et l'alchimie, c'est a marché tout de suite.
Tout de suite. Ouais, ouais. Dès qu'on s'est mis dans la musique et dans la conception du disque, il y a quelque chose qui s'est passé, qui était simple, qui était naturel, qui était évident. Je me suis pas posé de questions plus que ça.
Et Romane, c'est la première fois que vous avez travaillé, écrit en tout cas la musique pour une femme.
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Petit détail.
Non, mais c'est un détail. non, mais. Le texte est très important pour moi. La musique naît du texte. Enfin, c'est ma vision. Mais je pense que ça aurait été aussi la vision de Django. Je dis toujours, c'est un peu comme les sculpteurs. Le sculpteur dit la statue est dans la pierre. Moi, je dis la musique est dans le texte. Et donc, c'est le texte qui décide de ce qui va se passer sur le plan mélodique. Et l'art de la création, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et c'est quelque chose... qui est issu de Django. On parle peu de ça, mais Django a accompagné beaucoup de chanteurs et de chanteuses aussi.
Ouais.
Notamment Jean Sablon. Notamment Jean Sablon, mais bien avant encore.
Lise Gotti, Damien. Tout
voilà,
ça.
Absolument. Et donc, il aimait la chanson française. C'est une évidence. Toute sa culture, elle vient aussi de là. Hein. On n'en parle pas. Elle n'a rien à voir avec le tzigane. Hein. Si je peux me permettre, c'est pas l'origine de Django.
Ni de vous, d'ailleurs.
Ni de moi. Moi, je ne joue que du jazz. Et Django est un musicien de jazz, par essence. Véritablement.
On va revenir justement sur ce jeu de jazz. Quand on parle de jeu, on parle de guitare. C'est là que vous intervenez, hein, Guillaume Aknin. Vous êtes musicien, fondateur du Tri Collectif, un collectif qui travaille sur la musique improvisée. La première leçon que vous avez donnée à Reda Kateb pour jouer, ça a commencé par quoi ? Parce que c'est lui qui joue dans le film.
Jouer, ouais, c'est effectivement ça. Et la première chose que je lui ai proposé, c'était de jouer des morceaux en fait qu'il aimait bien, pas de Django Reinhardt, qu'il écoutait déjà.
Ça donnait quoi ? C'était quoi comme morceau ?
Alors si je me souviens bien, je parle sous son contrôle. Il y avait un morceau de Johnny Cash.
Ah, c'est mal.
Il y avait un morceau de Bob Dylan et un morceau d'Ali Farka Touré.
Oh, c'est pas mal, wow. Dedans, c'est pas dingue, ouais.
Et du coup,
il sourit.
Attendez à quoi,
hein. Je sais pas, Chantal Goya.
Et du coup, il y avait deux choses qui m'ont surprise. Déjà, c'était que c'était des chansons de très très belle qualité et ouais. Que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, qui était réalisable pour un débutant qui avait jamais joué de la guitare pas réalisable comme quelqu'un qui doit exactement reproduire cette musique-là tout de suite, mais qui était abordable pour approcher l'instrument dans un premier temps.
D'abord, approcher l'instrument dans un premier temps, mais ensuite, pour trouver la technique de Django Reinhardt, comment on travaille ça? Parce que c'est une technique à trois doigts, puisqu'il avait été brûlé lors de l'incendie de la roulotte. Et puis, vous aviez une prothèse, en plus.
Oui. Bah, la prothèse, en fait, il n'y avait pas de tension, en fait, sur les doigts. Donc, c'était une couche de silicone maquillée qui produisait pas de contraintes sur la main. Donc, voilà, c'était à moi de plier les mains et de jouer à trois doigts les solos. Et pour ce qui est de la pompe, de la rythmique, j'utilisais quand même les autres doigts, comme je crois le faisait Django. Ouais. Il utilisait ses doigts brûlés qu'il pouvait pas utiliser pour les solos, mais dans la rythmique.
Et alors là, pour cet exercice-là, Guillaume Aknin?
Bah, en fait, on s'est pas mal basé sur la bande son, en fait, qu'on avait en.
Qui avait été enregistrée au préalable.
Ouais. Et après, du coup, on a monté tout un espèce de petit stratagème pour pouvoir le plus possible filmer Reda en train de jouer, en ayant comme objectif que ça fonctionne à l'écran. Alors du coup, il s'est pas joué tous les solos de Django Reinhardt.
Ah bon? Je suis déçu.
J'imagine bien que vous avez pas imaginé ça. Mais par contre, il a appris à accompagner quasiment sur tous les morceaux, de manière un peu raccourcie, en allant droit au but. De toute façon, l'idée principale de mon rôle là-dedans, c'était de faire en sorte que Reda puisse être comédien avec une guitare dans les mains, sans que ça pose ce problème à l'image. C'était pas de faire de Reda un grand musicien en 12 mois.
Même si par ailleurs, il joue de la musique, hein, on en a déjà parlé ici quand on s'était invité, quand on vous avait invité. Roman, un mot peut-être sur la technique de Django Reinhardt? Ou sur ce qu'il a apporté au niveau du jeu.
C'est énorme ce qu'il a apporté. En fait, c'est le handicap qui a fait naître cette particularité. Je pense qu'il jouait déjà formidablement bien quand il avait toute sa main, mais le fait qu'il soit handicapé, il a été obligé de parcourir le manche, non pas sur un plan vertical, mais sur un plan horizontal. Et du coup, il s'est mis à chanter, c'est-à-dire qu'il court après les notes, véritablement. C'est vraiment ça, il court après les notes. Moi, pour avoir vu le film, je trouve que c'est d'ailleurs très réussi, parce que vous avez aussi fait énormément de plans avec une main d'un guitariste qui marche merveilleusement bien. Et je trouve que ça, c'est ce qui manquait dans le film qu'on connaît tous de Woody Allen, et qui nous terrifiait. Le film était formidable, mais ça, c'était terrifiant. Alors que là, pour le coup, ça marche très très bien.
Il y a beaucoup de musique d'ailleurs, beaucoup de morceaux de musique, des longs morceaux de musique, ouais, qui est rare, même dans les biopics, ça ouvre presque avec Django sur scène.
Oui, mais c'est vraiment, ça commence par un long concert.
Dans les minutes, il y avait quatre morceaux, et c'était justement très important pour moi de présenter le personnage à travers sa musique avant tout. Et comme c'est un musicien, évidemment, c'est le concert. Et le concert, il fallait respecter, voilà, pour pas que ça fasse un clip, pour qu'on rentre vraiment dans la temporalité du concert, qu'on soit aussi de son côté, qu'on perçoive la musique avec son Hot Club de France. Donc oui, c'était vraiment une façon de nous montrer toute la subtilité, son ironie, à la fois sa vivacité, sa hargne, sa frontalité aussi avec la salle, qui quand même renvoie aussi des Allemands et des Français dans la salle. Donc voilà, c'est une façon de dire, voilà, je suis là.
C'était aussi une manière de débarrasser aussi le spectateur de un peu la curiosité, de se dire, exactement, bon, comment est-ce qu'il va jouer de la guitare?
Voilà.
Il y avait cette idée de le placer au début du film, comme ça après on rentre dans l'histoire.
Mais j'imagine que ça a été tourné vers la fin, non?
Oui.
Comme ça, vous aviez bien pourvu se répéter. Bah oui, je me dis, pour répéter et tout ça, exactement.
J'ai même eu du mal à arrêter Reda avec le Hot Club de France quand il jouait en live. Il voulait absolument refaire
le concert. On a fait une semaine pour ce concert, j'en aurais bien fait deux.
Alors, vous avez demandé à vous, Noël Balin, et à vous, Guillaume Aknin, musicien et coach de Reda Kateb, de choisir deux morceaux qui représentent pour vous l'art de Django. Et c'est bizarre parce que vous avez, vous avez celui-ci en commun. Extrait. Alors c'est Nuages, on l'aura reconnu, mais la version 1953. Pourquoi cette version-là, Noël Balin?
C'est celle de 53, ça? Non. Non, c'est pas celle de 53.
On a essayé d'avoir celle de 53. Erreur de
normalement, il y a
toute l'équipe du NRV.
Il y a Maurice Vander au piano.
D'accord.
Pierre Michelot à la contrebasse, Jean-Louis à la
basse. C'est toute l'équipe du NRV.
Ceci dit.
Du licenciement dans
l'air. Ceci dit, Laurent, quand on m'a posé la question, honnêtement, c'est impossible. Pour avoir tout écouté.
Non, mais bien sûr, mais vous avez quand même choisi.
Mais j'avais donné aussi.
53. Non, non, mais attendez, on verra l'autre aussi. 53, pour quelle raison vous vouliez cette version?
Il y a plusieurs versions. Là, on pourra en parler avec Roman, mais on peut y passer la soirée là-dessus. Il y a plusieurs versions. Celle historique avec Hubert Rosslyn, qui est la création. Et celle-ci, parce que c'est un peu le, enfin, c'est la fin, quoi. C'est le testament de Django. Ça fait partie des dernières séances d'enregistrement avant sa mort. Et il maîtrise, évidemment, son art, la technique, mais surtout, il est dans la modernité absolue. C'est un disque qui n'est même pas daté, contrairement à ceux des années 30, qui n'a pas pris une seule seconde, voilà, c'est éternel. Il est dans la guitare électrique, dans le bebop, et voilà, c'est un dynamiteur.
Roman ?
Encore mieux, c'est ce qu'avait dit Django tout à l'heure. Parfait.
Ah oui,
je peux rien dire de mieux que ce qui vient d'être...
Guillaume Aknin, vous avez choisi aussi Nuages, vous ?
Oui, moi j'ai choisi Nuages, alors pas pour une version en particulier, pour la composition en fait, que je trouve, que je pense que c'est une des plus belles compositions qu'il ait faites.
À quel niveau ?
Bah, au niveau de la mélodie et de l'harmonie de ce que ça représente, c'est juste beau, quoi.
Deuxième extrait, ça c'est vous qui l'avez choisi. Deuxième extrait. Rythme futur, c'est votre choix, Guillaume Aknin.
Ouais, parce que c'est, pour moi, c'est un des plus modernes, en tout cas, un des trucs qui est et qui peut aussi se rapprocher plus des choses, de la façon dont j'apprends aujourd'hui la musique à travers la pratique des musiques improvisées et compagnie, avec plein de cassures, avec plein de bouts, avec sa switch en tout, sa switch un peu de mode de jeu un peu tout le temps. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup plus tard dans les zappings de John Zorn, dans les choses comme ça, qui sont hyper chouettes.
Ce qui est étonnant, c'est que même les guitaristes de heavy metal le citent en référence absolue. Moi, je me souviens, quand j'étais môme, j'étais fan de John McLaughlin, et j'avais été surpris, hein, dans une interview, il dit l'indépassable, l'insurmontable, c'est Django Reinhardt.
Troisième extrait, c'est vous qui l'avez choisi, et ça fait écho au film, c'est un titre de 1946. Ça, c'est sa Marseillaise.
Ouais.
On l'entend dans le film, on va en parler avec vous, Étienne Comar aussi.
Ça, c'était pour Christophe Bourseillet. C'est une musique pour l'entre-deux-tours. c'est une des versions de la Marseillaise que je supporte. C'est surtout la rencontre, la retrouvaille entre Grappelli, qui était resté à Londres, qui était malade, et puis Django. Et c'est une retrouvaille spontanée de fraternité.
Et la Kateb, c'était facile à jouer, ça?
Bien sûr.
Bien sûr, voilà. Très, il rentre dans le personnage jusque dans la promo. Bien sûr, un seul mot. Étienne Comar, vous aviez choisi aussi. Il est dans la bande-annonce, dans la bande originale.
Il est dans le film, mais alors pas une version du tout.
Non,
pas comme celle-là. Comme s'il le jouait un peu. Il a une scène où il doit démontrer à un barman qu'il est capable de jouer. Le barman a l'air assez méprisant, peut-être un peu raciste, et donc il lui fait une version marseillaise en commençant par les notes, et puis tout d'un coup il laisse parler son génie, et voilà, et c'est une version
et
séduit le barman avec
sa. Et c'est intéressant parce que c'était sacrilège et elle a été interdite.
Elle a été interdite, ouais. Étienne Comin Romane.
Moi, je retiens surtout la mère qui réclame à boire.
Voilà. Ah, mais ça, c'est dans le film. Il a vu le film.
On parle beaucoup de musique, mais voilà, dans cette scène, c'est quand même c'est la énorme. Scène de la mère qui négocie qui achète son fiston dans le bar. Bah oui, absolument.
Justement, Romane, vous avez joué avec son fils Babik dans un ensemble. Comment comparer leurs jeux? Est-ce que vous avez reconnu
pour moi,
de Django Reinhardt, excusez-moi.
Pour moi, il vous a manqué cruellement comme conseiller sur l'âme de Django, parce que Babik était la réincarnation de Django pour moi sur le plan humain. Donc, y a une chose que vous avez dit tout à l'heure là qui m'a un peu troublé. Hein. Vous avez dit Django est pingre. Non, pas du tout. Il allait piquer de l'argent à tout le monde pour aller jouer au jeu, certainement, parce qu'il était comme ça. Mais il avait le cœur sur la main, c'est-à-dire qu'il aurait pu donner tout ce qu'il avait. Babik était comme ça. S'il avait de l'argent sur lui, c'était pour tout le monde. L'argent n'en avait aucune... Ça l'intéressait pas.
C'est-à-dire que ça n'avait tellement pas d'importance qu'il en fallait beaucoup. C'est une belle philosophie. L'argent n'a aucun sens, donc il m'en faut beaucoup.
Il pouvait piquer l'argent à ses musiciens, mais leur redonner au travers
c'est
du pour champagne.
Ça, c'est les deux choses. C'est le mot de pingrerie. C'est pas de s'arrêter au mot de pingrerie, au mot de générosité. C'était vraiment l'idée de dire que, en fonction des moments dans lesquels les gens l'avaient rencontré ou des situations, il y avait tout le temps des signaux contradictoires. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens. Et même encore avec vous autour de la table ce soir, je me rends compte à quel point chacun a son image de Django. Oui, et ce film n'a pas du tout vocation à
instaurer une vérité.
Django générique. Non, non. Et au contraire, c'est ce qui en fait le personnage qu'il est et le mythe qu'il est. Et tant mieux s'il appartient
à
tout le monde.
Et même ce titre, le titre est formidable. Enfin, bien sûr, le titre est formidable. Il s'appelle Django. Mais Django, c'est aussi deux autres films. C'est le film de Tarantino et c'est le film de Sergio.
Mais qui s'appelle Django à cause de Django, hein, il faut le savoir.
Mais justement. Justement,
c'est le Django Tarantino et donc le reboot de Django de Corbucci.
De Corbucci, c'est ça.
Qui avait appelé son personnage Django parce qu'il était blessé de la main gauche et que c'était un grand fan de Django Reinhardt. Donc il n'y avait pas de raison que ce film-là ne s'appelle pas Django.
Eh bien, exactement. La légende se continue. Jamais 203. You feel like the president, sweet power and influence. Oh, baby, we all see. The obvious, you worked hard for your money and your confidence, but baby, yeah, it's irrelevant. Oh, baby, yeah, it's irrelevant. Swim against the tide, walk against the flow.
Against the tide, walk against. Oh, baby.
Alors, on a parlé de swing toute la soirée avec Django, mais là, c'est Swim par Heure, le duo qui joue dans tous les festivals cet été, dont les Eurocaennes. Et oui, le 8 juillet. C'est ça une transition, Valy. Merci d'apprendre votre métier. Exactement. Et tout de suite, on retrouve Valy. On garde le rythme avec le questionnaire pour le meilleur et pour le pire de la musique, Valy.
Valy. Ok.
Je crois qu'il, principe, Valy,
je crois qu'il faut dire « and now for something completely different
». Exactement.
D'accord.
Pour rappeler le principe, Valy.
Oui, donc, c'est un questionnaire tac au tac, la musique pour le meilleur et pour le pire. Et cette semaine, j'ai interrogé Alain Chamfort, qui termine bientôt sa tournée d'une trentaine de dates et qui serait ce samedi soir à la salle Pléiel. Alors, pour ceux qui arrivent sur la planète France, Alain Chamfort, c'est ça. Et Alain Chamfort, c'est aussi ça. Joy, joli Joy, joli Joy. Toi qui brilles comme l'astre solaire, je ne suis qu'un. Alors, il s'est plié à mes questions sur la meilleure. La musique pour le meilleur ou pour le pire, mais tout, surtout autour de la scène, parce que, comme je vous ai dit, il y a quelques soirs de son concert à Pléiel, et ça commence toujours par la question premier album, Alain Chamfort.
Jimmy Smith, qui était un album d'un organiste de jazz. Moi, je sortais de la musique classique et j'ai entendu Jimmy Smith et je suis tombé dingue de son travail. Et le premier album que j'ai acheté, c'est lui, voilà.
La musique de votre premier amour.
Un des premiers slows que j'ai dansé en surprise party et qui a amené à une chute d'un baiser, c'était sur The House of Rising Sun de Animals.
Votre première idole, Alain Chamfort.
Gary Cooper.
Première chanson que vous avez écrite et à quel âge?
La première chanson que j'ai écrite, c'était pour un groupe qui s'appelait Les Mottes, dans lequel je jouais moi-même de l'orgue. Et la chanson s'appelait Je veux partir. J'avais 16 ans.
Premier pas dans le métier?
Alors, c'est avec Jacques Dutronc, parce que j'étais musicien, accompagnateur à l'époque. Et avec Les Mottes, on avait fait un 45 tours, donc. Et puis, on était dans la même maison de disques que Jacques. Et Jacques a sorti Et moi à la même période que nous. Et son disque a marché très fort. Et il avait besoin de musiciens, et donc il m'a réquisitionné très vite. Et après, je l'ai accompagné pendant 2 ans, et j'ai fait ses albums aussi qui ont suivi, avec J'aime les filles, les Playboys, Sur une âme de restaurant, La fille du Père Noël, Les cactus, enfin tout ça, je jouais là-dessus, quoi.
Premier concert où vous avez joué?
C'était en première partie de Claude François, à Cambrai. Ça doit être en 72.
Finissez cette phrase, travailler avec Claude François, c'était...
Réagir vite. Il était très impatient.
Meilleur souvenir de concert?
Meilleur souvenir de concert, c'était le concert de James Brown. Comme James Brown est venu à l'Olympia, il est arrivé avec The Famous Flame, avec ses chorégraphies, ses trucs, sa cape. Enfin, c'était un truc extraordinaire. On est ressorti de ce concert différent. J'étais extrêmement marqué par ce concert.
En tant qu'artiste, Alain Chamfort, quel est votre pire souvenir de concert?
Moi, c'est la première fois que j'ai fait l'Olympia, justement, en tant que chanteur. En première partie, avant moi, il y avait Michel Jonas. Moi, je passais en vedette américaine et Stone Charden était en vedette. Et j'ai essayé de concevoir un tout petit spectacle avec des petits effets. Plutôt que de chanter ma chanson, tout simplement, j'aurais mieux fait de faire ça parce que les idées sont tombées à côté. J'ai même cru qu'il y avait eu un sabotage. Je rentrais avec le micro à la main. Je faisais un premier couplet et je posais le micro et je m'avançais vers le public sans micro. Et là, il y avait un pied de micro qui surgissait du sol. À l'époque, c'était une petite trappe avec le micro qui était tout près, qui sortait comme ça du sol, qui arrivait à ma hauteur. Donc tout ça se passe bien. Le micro arrive, seulement il n'était pas branché. Donc je fais mon deuxième couplet dans le vide. Et quand il s'est branché, ça fait du larcène, parce que le type n'avait pas eu le temps de bien le régler. Et tout ça hurlait dans la salle pendant 2-3 minutes. Le temps qu'il règle l'intensité du micro, il était passé au moins 2-3 phrases, quoi. Donc les gens étaient morts de rire et tout. Enfin, c'était une catastrophe.
Dernière question. Alain Chamfort, est-ce que vous aimez faire de la scène?
De plus en plus, ouais. Mais de fait, quand on est heureux sur une scène, je pense que les gens perçoivent ça et que ça leur produit aussi un vrai plaisir, quoi.
Vous avez fait l'entretien dans une laverie?
Non, mais c'était une horreur intégrale et on ne retournera plus dans ce café qui s'est ouvert exprès pour nous et qui n'a pas arrêté de faire
travailler.
Du bruit.
En même temps, c'était la France travaille, madame.
Oui, heureusement, il faut dire. Mais j'ai une petite surprise pour vous, Laurent.
Alors, c'était comment? Le jour vient de naître sur les villes et les rivières.
J'adore cette
chanson. On court, on s'inquiète du retard sur un horaire. La radio annonce qu'il y a du brouillard dans les champs, les renards.
J'adore.
Les 30 bandits oubliés dans des gares, sur les quais, les gens pressés, tout essoufflé. Déjà, c'est pas mal, je l'ai fait sur scène.
Elle a 4 livres. Attaché à un ruban.
Mais je suis fou de cette chanson. Dès que je suis en vacances, je me la passe. Ça me rappelle. Ah, j'adore cette chanson. Quand on conduit au volant, oui. C'est la Dolce Vita, Mont de Marsan.
Renaud 14, j'adore. Aussi de Claude François sur ce titre. En tout cas, Alain Chamfort serait jeudi soir à Saint-Dizier, samedi à Pléhel à Paris, et puis le 5 mai à Commentry.
Ça.
Elle pense à moi.
C'est génial.
On oublie Django Reinhardt.
Premier album acheté, Reda Kateb.
Ou quelqu'un vous a offert.
Un des premiers
albums. Ou que vous avez volé.
Qu'est-ce que c'était? Je me demande si c'était pas l'album d'Indochine quand j'étais gamin. J'adore Indochine. À 8 ans, quelque chose comme ça.
Super.
Et vous, Gilles Kaplan?
C'était une compilation des Beach Boys, double album des Beach Boys.
C'est pas mal,
pas mal du
mais
tout.
En fait, c'est parce que j'aimais bien la pochette, mais je connaissais pas du tout ce qu'ils faisaient. C'était au supermarché, on allait au Leclerc avec ma mère et.
C'était le premier boys band.
Ouais, enfin, je sais pas.
Parce que vous pensez de la pochette, c'est plutôt pas mal.
Ouais, c'est vrai.
Roman, on va faire un tour de table.
Moi, c'était Django.
C'est vrai.
Ah oui.
Ah ouais, d'accord.
Ah oui, ça commence.
C'est fou
tôt.
Parce qu'il commence à 12 ans, 71, où c'était l'époque où tous les albums de Who sortaient, Who's Next. Ouais. Il y avait tellement d'albums de rock'n'rollers. Et vous étiez branché sur Django, c'est pas mal.
Je passais pour un extraterrestre. J'étais viré de la classe. Mais je me disais, mais tu connais le groupe, le machin, les Martin Circus.
Mais c'est ça aussi qui est fabuleux avec Roman, c'est que. On lui parle des Beatles, il sait à peine ce que c'est, quoi. Il vit
dans
d'ailleurs toujours
bubble.
Dans une espèce de bulle. Et moi, j'adore les gens comme ça qui ont une espèce d'obsession, qui sont dans leur monde à eux, et finalement le reste du monde peut couler, s'écrouler, grandir, peu importe. Ils sont dans leur truc complètement.
Étienne Comard, vous?
Moi, je crois que c'est une femme, c'est Easter, Patti Smith.
Avec 78.
Moi, avec Dave, je vais pas aller loin. Hein. Guillaume
si je me rappelle bien, ça devait être un album de Alain Chamfort. Non. Non, pas du tout. Et du coup, c'était, si je me souviens bien, c'était le disque de Radiohead qui s'appelait OK Computer. À
oh, le culot.
Mais qu'est-ce que vous êtes jeune, c'est scandaleux.
C'est impossible.
Après, j'ai acheté des disques tard, donc.
Noël Balin.
Le disque qu'on a acheté avec ses propres sous.
Ouais.
C'est les Stones, Get Your Ass Out, la tournée.
Valise.
Moi, c'est toujours le même, hein.
J'imagine que chaque fois, elle va changer, rappeler.
Pas du tout. C'est le comédie musicale So Broadway the Hair. C'est pas la même chose que le film.
C'est bien.
C'était super, l'original, c'est en tout cas.
Eh bien, on va finir sur un dernier extrait. Retour au film à une histoire très précise dans la vie de Django. La fiction peut même entrer dans la musique, Étienne Comard. Qu'est-ce qu'on entend?
On entend en fait la composition qu'a faite Warren Ellis, donc musicien qui vient de l'univers du rock et comparse de Nick Cave, qu'il a composé en fait dans la continuité des quelques notes et quelques portées qui restent, quelques accords d'orgue qui restent de Django sur cette messe tzigane qu'il a dédiée à ses frères tziganes à la fin de la guerre pendant la libération.
Une composition qui n'a jamais fini. Ouais.
Qui a été transcrite par Léo Choliac, parce que Django, comme on l'a dit tout à l'heure, était illettré, il ne connaissait pas la musique. Et donc c'est là que la puissance et le génie, moi j'ai titré le génie vagabond, mais j'emploie très peu ce mot-là, mais pour le coup, au XXe siècle, il y en a eu un. Et il était capable réellement d'établir les scores d'une partition. Et ça, il y a quelques cerveaux très rarement constitués qui peuvent le faire.
C'était agréable à diriger, puisque vous êtes le chef d'orchestre à ce moment-là, Reda Kateb.
Oui, mais pour le coup, j'ai pas joué le chef d'orchestre. Quoi. C'était un moment justement de lâcher prise, en fait, dans lequel Django passait du guitariste soliste de génie qu'il était à un homme qui a pris conscience de ce qui se passait pour sa communauté, du drame de son époque, et qui cesse d'essayer de briller et qui donne quelque chose. Quoi. Donc à un moment, voilà, lorsque je joue cette scène, je cesse de diriger pour écouter.
Bien, merci à vous tous. Reda Kateb, Étienne Comard, Django, le film, ça va swinguer au cinéma dès demain. Noël Balin, deux livres. Django Reinhardt, le génie vagabond aux éditions du Rocher. Et l'Odyssée du jazz, c'est Liana Levy. Gilles Kaplan, l'album Imparfaite, apparu sous le label Washi Washa. J'adore ce nom. Hein. Et je signale le 38e festival Django Reinhardt. Il aura lieu du 6 au 9 juillet dans le parc du château de Fontainebleau. Merci à vous tous. Le NRV, première partie, c'est fini. Valy, l'instant V, demain, ce sera?
On reçoit le pianiste Yarol Herman et le chanteur Hugh Coltman.
Nous, on se revient dans 15 minutes avec ça.
Vive la République, vive la France,
vive le peuple français, vive la République, vive la France.
Présidentielle, comment gagner le second tour? Il paraît qu'il y a une méthode. Eh bien, on va tout comprendre, on va tout savoir.
On vient de casser l'ambiance là, je vous le dis.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous? Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui. Rendez-vous?
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est le NRV, la suite, et c'est reparti pour un tour. Je parle de la campagne présidentielle, bien sûr. Alors, les sondeurs l'avaient prédit, les Français l'ont fait. Emmanuel Macron en tête, suivi de Marine Le Pen quand même, sans que personne ne semble s'en alarmer. Peu de commentaires, pas de manifestations, très bizarre. Et pour le 7 mai prochain, eh bien, il y a ceux qui pensent que c'est déjà plié, puis ceux qui croient que tout reste à jouer. Mais cette fois-ci, qui est le favori et qui est le challenger? Pas simple, car la situation est inédite, avec deux candidats qui se réclament de l'antisystème. Alors, les règles et les méthodes qui permettent, en général, au favori de l'emporter sur son challenger, ne risquent-elles pas, cette fois, d'être inefficaces? Et après le second tour, que peut-on attendre du troisième, les législatives? Élection, zut alors, c'est un titre de Christophe Bourseiller, il nous expliquera pourquoi. C'est le sujet du NRV ce soir et on en parle avec Benjamin Carle. Vous signez la série documentaire « Comment gagner une élection présidentielle » sur Planète Plus. Bonsoir. À côté de vous, Valérie Higounet, elle est historienne, elle vient d'Uzès, elle est bronzée, co-auteure du documentaire photo « L'illusion nationale » sur les électeurs du Front National. Bonsoir.
Bonsoir.
À côté de vous, François de Smet, il vient de Belgique, donc vous devinerez son teint. Il est philosophe, auteur de « Lost Ego, la tragédie du je suis » aux presses universitaires de France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et comme chaque semaine, Alice Antôme, en pleine forme avec des S, est avec nous pour sa chronique en partenariat avec l'école de journalisme de Sciences Po. Et ce soir, le sujet vous a inspiré.
Bonsoir. En plus d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, il y a un autre qualifié pour le second tour, c'est le parti des fake news, ces informations bidons qui circulent en ligne et surtout qui peuvent altérer le jugement des électeurs. Et vous verrez, ça n'est pas tout à fait comme aux États-Unis.
Le NRV, second tour, à voter.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Allez-y, Christophe Bourseiller, lancez-vous.
Je me jette à l'eau, Laurent. Je me jette à l'eau. D'abord, sachez que le titre « Zut à l'eau » n'est pas de moi, puisque c'est la couverture du dernier numéro de The Economist. Zut à l'eau,
France. Où on voit un poulet français. Enfin, un poulet.
Je crois que c'est un coq. Ouais, hein, c'est un coq qui a peur.
Un coq qui a peur, qui se cache, en effet.
Qui se cache le visage.
Le visage.
Alors
le coq
que personne ne dit zut à l'eau.
Non, personne.
Ça n'existe plus comme exemple.
Il y a toutes les Anglais pour dire zut à l'eau. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Zut à l'eau. Alors écoutez, Laurent, ne vous en dépêchez pas. déplaise, Laurent, arrêtez ce cirque médiatique, parce que vous, les médiacrates, et je reprends ici un terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon quand il boudait en direct à la télévision dimanche en prenant sa victoire pour une défaite, vous donc, les médiacrates, vous me rendez perplexe. Alors, j'ai choisi de m'inspirer, là, ce soir, d'un titre récent donc de l'hebdomadaire anglais The Economist, élections tout à l'heure. Mais alors, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi? Eh bien, parce que au mois de janvier, un autre journal anglais, The Guardian, avait pondu une analyse. Et oui, Laurent, parfois, on pond une analyse qui m'avait frappé.
Ah non, mais alors, vous filez la métaphore des gallinacés, c'est parfait.
Tout à fait. Alors, que disait-il, The Guardian, en janvier? Il disait que la France ne fait jamais rien comme les autres. L'Amérique élit Trump, la Grande-Bretagne s'engage dans le Brexit, Poutine incarne un nationalisme sourcilleux, Erdogan radicalise son emprise, et la France pourrait bien, elle, adopter une attitude absolument inverse. Et comme le dit le politologue Karim-Émile Bitar, cité par le quotidien de Beyrouth, L'Orient le Jour, il y a aujourd'hui un nouveau clivage entre les partis d'ouverture et les partis de fermeture. En France, au premier tour, c'est le candidat de la construction européenne qui se trouve clairement en tête. Aujourd'hui, le rapport de force entre Macron et Le Pen est de 60 à 40. Alors cet écart peut se résorber, il est tout de même significatif. Alors même qu'un vent populiste et souverainiste balaie la vieille Europe, la France semble opter pour un président jeune et européiste qui rappelle tout à la fois Kennedy, Obama, mais aussi Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il a été élu en 1974, avec des jeunes gens qui brandissaient ce slogan « Giscard à la barre, Giscard à la barre ». Je dis ça pour les plus jeunes qui n'étaient pas là en 1974. Moi-même, j'étais assez jeune, je veux dire, à l'époque. Enfin, bref, bon. François de Smet. La plupart des commentateurs disent que nous vivons en France une période inédite qui nous fait littéralement entrer dans le 21e siècle. Alors, qu'est-ce qui est nouveau selon vous dans cette élection? Et là, je m'adresse aux philosophes.
On pourrait dire plusieurs choses. Il y a la jeunesse des candidats, parce qu'on pourrait même parler de celle de Marine Le Pen, bien qui sûr. Est à peu près l'âge qu'avait Valéry Giscard d'Estaing. On a une finale jeune en tant que telle. Il y a le fait, évidemment, mais ça, beaucoup de politologues l'ont déjà dit, que les deux principaux partis qui se partageaient le pouvoir jusqu'ici sont laminés. Et alors, moi, ce qui me frappe très fort, et c'est peut-être parce que je vois ça de l'étranger aussi, comme on a un casting inhabituel, il y a un produit de contraste qui montre à quel point cette élection présidentielle est en fait un objet extraordinaire. Et là, peut-être qu'en France, en votant tous les 5 ou 7 ans, on ne s'en rend pas compte. C'est, à ma connaissance, la seule élection au suffrage universel où on élit quelqu'un d'aussi puissant. Le président de la République française a beaucoup de pouvoir par rapport... Enfin, la Constitution lui donne énormément de pouvoir. Même le président des États-Unis n'en a pas autant. Et lui, il doit faire face à des élections à mi-mandat avec un congrès qui le corsette. On voit d'ailleurs que Trump n'est pas tout puissant, contrairement à ce qu'il croyait. Et il y a quelque chose de singulier. Et pour vraiment, je vous fais court, rassurez-vous. Mais moi, je crois qu'il y a deux France. Il y a la France traditionnelle de Clovis, catholique, monarchiste, conservatrice. Elle existe et elle est là à peu près partout, peut-être même dans chaque Français, un tout petit peu, dans des proportions différentes. Et il y a la France de 1789, celle des Lumières, celle de la table rase, celle de la démocratie, celle des droits de l'homme. Et moi, je crois que la Ve République, mais alors philosophiquement, avait cet atout-là, et c'est peut-être ça la nouveauté, c'est qu'on est on est dans quelque chose qui peut faire exploser ce système, d'essayer d'unifier les deux, avec l'élection d'un monarque républicain avec des pouvoirs extrêmement forts, avec, c'est quand même marrant, à chaque fois qu'il y a une législative qui suit une présidentielle, gentiment, on donne sa majorité au président, mais on lui coupe la tête dès qu'il y a une élection qui intervient dans son mandat ou dès que c'est terminé. C'est comme s'il y avait cette double séquence. Et je trouve qu'on ne se rend pas assez compte à quel point c'est un schéma assez extraordinaire et à quel point peut-être qu'on arrive de nouveau à un point de déséquilibre. Et la peur qu'on peut avoir, même si effectivement M. Macron a l'air favori pour l'instant, c'est est-ce que son jeune âge, est-ce que malgré tout sa faible expérience va arriver à calmer ce côté nation. Puisque la dualité dont je parle, elle peut prendre la forme comme ça, sans se dessiner les élites contre les couches plus populaires. C'est ce que Marine Le Pen essaie
de d'installer. Tenter dans son discours. Ouais.
Mais elle peut aussi prendre d'autres antagonismes, et principalement celui entre, et je termine avec ça, la nation contre la démocratie. La démocratie, c'est le temps présent, c'est le bricolage, c'est difficile. La nation, c'est la promesse, c'est le peuple, je vous parle de l'avenir et du passé, jamais du présent. Et il faut avoir un peu de bouteille, il faut donner un peu de biscuit à la partie nation du français qui est là, même si c'est d'abord un démocrate.
C'est pour cette raison peut-être que le terme patriote revient régulièrement dans son discours. Valérie Gounet, vous, comment vous regardez donc ce qui s'est passé et le caractère inédit aujourd'hui de ce fonctionnement ?
Alors moi, le caractère inédit qui me revient immédiatement, c'est le niveau historique du Front National. C'est tout simple, quoi.
Et qui n'a pas fait débat.
Alors, la première chose, c'est que Marine Le Pen arrive au second tour avec plus de 21% des voix. C'est la première fois. Hein, il faut pas l'oublier quand même, ce n'est pas rien. Et elle vient tranquillement s'installer dans ce second tour. C'est-à-dire que beaucoup s'y attendaient et nous la recevons. Et nous attendons maintenant voir ce qui se passe.
Avec un sentiment de déception de sa part.
Ah oui, alors là c'est sûr, c'est vrai qu'elle ne cessait de dire encore plus haut les derniers jours qu'elle serait la première. En l'occurrence, elle n'y est pas. Donc c'est vrai que ce Front National qui se targue d'être le premier parti de France pour cette élection, c'est vrai qu'il n'y est plus. Mais l'important n'est pas là pour moi. Aujourd'hui, je vous dis, par rapport à 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour, mais c'était une surprise. On ne s'y attendait pas, c'était en gros un accident de l'histoire.
Et les gens étaient descendus dans la rue.
Immédiatement, c'est-à-dire dès la proclamation des résultats, quelques minutes après, les gens se bousculaient dans la rue pour dire qu'ils ne voulaient pas du Front National. Mais il n'y avait pas que les gens, il y avait les politiques. Au Parlement européen, Jean-Marie Le Pen avait été accueilli avec une pancarte « Non ». Aujourd'hui, dimanche soir, Paris, mais pas que seulement Paris, était silencieux.
Mais même dans le vide annonce,
à part quelques
oui, même dans l'annonce qui a été Allez, faite fantôme. Dans les différents médias, dans le champ lexical, c'est vrai que autrefois, on avait coup de tonnerre, on avait des mots quand même assez forts, cataclysme, etc. Et là, effectivement, il n'y a eu aucun mot plus haut qu'un autre employé pour dire qu'elle était au second tour.
Mais je pense que ça fait partie des explications. Concrètement, un Français qui est électeur depuis le milieu des années 80 a vécu 30 années de choc. À chaque nouvelle percée du Front National, on parlait d'un choc. Concrètement, le choc, c'était quoi ? C'était se lever le matin, se prendre le pied dans la table basse et insulter la table basse. Et là, en fait, pendant 30 ans, on n'a pas bougé la table basse, ni bougé le canapé, ni mis des chaussons. Et là, on arrive à un moment où elle devait arriver première, elle arrive deuxième. On peut aussi considérer que ce soit un soulagement pour beaucoup et que, quelque part, sans aucun jugement de valeur ou de dire que c'est bien ou mal, ça soit perçu avec une... espèce de...
D'apathie,
oui.
C'est voilà, ce que c'est dit ça, Nicolas Legault, d'ailleurs, dans Libération, qui est politologue, qui dit effectivement, elle est montée très haut, mais c'est en deçà et elle a raté sa campagne du premier tour. C'est ce qu'il semble indiquer dans une tribune libre
face à Macron. Comme on
Le
veut,
Pen hein. va avoir du mal à incarner la nouveauté.
Non, mais le problème pour moi, c'est oui, elle a eu une campagne comme on dit. Oui, nous observateurs du Front National, on considère que sa campagne n'était pas bonne. En même temps, la dernière semaine de campagne était pur jus Front National. Il faut pas l'oublier. Rappelez-vous de ses paroles quand elle disait j'aurais été à la tête de l'État, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu d'attentat, et puis d'autres signes hein, dans d'autres meetings qu'elle a lancés, qui étaient très forts, qui s'adressaient vraiment et qui reprenaient une sémantique de l'extrême droite radicale. Donc si campagne ratée il y a, peut-être. Mais comme je vous le répète, le Front National aujourd'hui est une force politique incontestable qui ne fait pas que s'installer dans le paysage français, qui est là et qu'on accueille. Plus de 21% des voix, ça veut dire que entre 2002 et entre aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'écart de voix, 2,8 millions, c'est énorme.
Alors vous dites, Valérie Gounet, que là j'ai un texte de vous dites le FN de Marine Le Pen reste l'héritier de Jean-Marie Le Pen.
Totalement. Alors,
mais en même temps, elle a réussi le pari de la dédiabolisation.
Mais elle a totalement réussi. Quand je dis que ce Front National est l'héritier de Jean-Marie Le Pen, ça veut dire que les thématiques sont là. Elle reprend une sémantique, elle reprend un discours. Mais après cette dédiabolisation qu'elle a commencé dans les années 2000 et qu'elle a poursuivie à partir de 2011, elle a réussi. Puisque ce parti, justement, s'est banalisé. On le voit encore aujourd'hui, bien
on
sûr.
On voit encore aujourd'hui avec, paraît-il, un vote du côté des Mélenchoniens qui irait du côté du Front National. Alors, ce qui se joue dans l'entre-deux-tours, c'est pour Jean-Pierre Raffarin, ce qu'il appelle dans votre documentaire Benjamin Carl, le match de la mathématique et de la dynamique. On écoute cet extrait.
Il est clair que tous les seconds tours constituent un match entre les mathématiques et la dynamique. Et qu'est-ce qui l'emporte entre les mathématiques, c'est-à-dire les désistements, et la dynamique, c'est-à-dire la pulsion que porte un candidat. D'une manière générale, la dynamique l'emporte sur les mathématiques.
Benjamin Carl, c'est vous qui l'avez interviewé. Peut-être un commentaire sur ce qui se passe, sur cette histoire d'arithmétique et de dynamique, parce que ce qui fait la balance dans l'entre-deux-tours, généralement, c'est le poids du troisième homme qui va permettre. Or, le troisième homme, cette fois-ci, c'est François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon ?
Je pense que d'abord, il faut bien comprendre que, en fait, au soir du premier tour, à 20h, la première réaction, c'est de chercher un favori et un challenger. C'est ça la base du second tour. Et elle se fait. C'est pas. Il y a une chose à savoir. Celui qui arrive premier ou celle qui arrive première, ce qui n'est pas arrivé pour le moment, au premier tour, n'est pas le favori. C'est pas être arrivé en tête qui fait du candidat le favori. Ce sont les.
C'était ça avant.
Alors non, c'est pas vrai, parce qu'en 1974, par exemple, François Mitterrand fait 40% des voix au premier tour, largement devant Valéry Giscard d'Estaing. Pour autant, il n'est pas considéré comme favori du fait des reports de voix. Là. Les reports de voix ont été calculés très vite. Les premières questions qui ont été posées à tous les soutiens et candidats après du premier tour, c'est à qui donnez-vous vos voix ? Et donc ça, c'est ce qui fait les reports de voix. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'Emmanuel Macron est favori du second tour.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on suit encore une consigne de vote quand on est électeur ? Donné par son candidat.
C'est ça la nouveauté aussi.
Pas du tout l'impression que ce soit le cas, manifestement.
Bah, il se trouve, en fait.
Quand on voit, par exemple, Boutin qui veut dire qu'elle va voter Le Pen alors qu'elle était du côté de.
Après, il faudrait savoir qui sont les électeurs, suivent Christine Boutin. Ça, c'est une vraie question. Ouais. Mais, concrètement, il y a une chose. Pour le moment, depuis le début de la Ve République, à tous les coups, le favori du second tour l'emportait. Ces deux semaines d'élection sont très, 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 non pas faciles, mais relativement évidente pour les instituts de sondage et pour ne serait-ce que même quasi le bon sens paysan au moment d'une élection présidentielle à prédire. Parce que les opinions sont solidifiées, qu'il y a eu un vote qui a été établi. Pour autant, le report de voix, la dynamique font de vrais débats. Aujourd'hui, vous avez Le Monde qui a publié une possibilité de faire soi-même ces petits reports de voix pour essayer de prédire finalement par rapport à une.
Oui, mais ça, c'est la question d'arithmétique, mais pas de dynamique.
Mais c'est en ça qu'elles sont liées.
Oui, c'est très flottant aujourd'hui. Il me semble qu'auparavant, on pouvait dire, par exemple, l'UDI va se reporter sur tel ou tel. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il y en a beaucoup qui risquent de voter blanc en disant « il n'y a pas de danger, Marine Le Pen n'est pas un danger, on nous bourre le mou, on ne va pas soutenir Macron, donc on vote blanc ». Donc vous voyez, il y a eu un flottement de cet électorat et on ne sait pas, en fait, vers quel candidat il va se porter.
Valérie Gounet, ensuite.
Très brièvement, on sait aussi que s'il y a des passerelles, elles existent. Par exemple, on sait que l'électorat de François Fillon, on détermine à peu près aujourd'hui qu'il pourrait y avoir un tiers qui reporterait ses voix sur Marine Le Pen. Et c'est logique, alors que l'électorat Mélenchon, c'est minoritaire. Et c'est bien normal, quoi. C'est cohérent.
Eh bien, pas de premier tour ni de second tour, non. C'est le retour du couple le plus groovy, le plus glamour du Mali, Amadou et Mariam, dans le NRV.
Fait n'est-ce qu'il n'y a pas de bofou safou. dans la vie. Il faut pas croiser les bras dans la vie. Il faut se rendre utile dans la vie. Bofu sa fouye manindé. Bofu sa fouye manindé. Bofu sa fouye.
Bofou Safou, je sais absolument pas ce que ça veut dire. C'est Amadou et Mariam entre Bambara et français. Ben voilà, c'est du Bambara. Un avant-goût de leur nouvel album attendu avant l'été.
Le nouveau rendez-vous.
Il m'a dit un rendez-vous.
Laurent Goumard.
Et c'est où le rendez-vous ?
Sur France Inter.
Deux jours après le premier tour, un peu de prospective au NRV. Comment les candidats peuvent-ils gagner cette élection ? Enfin, pas les deux candidats, il manquerait plus que ça. Avant de retrouver nos invités, Benjamin Carl, Valérie Higounet et François de Smet, la parole est comme chaque semaine à Alice Antôme pour sa chronique en partenariat avec l'école de journalisme de Sciences Po. Et ce soir, Alice, vous nous parlez d'un troisième parti qualifié pour le second tour. Vous me faites peur.
Outre En Marche et le Front National, il faut compter avec le parti des fake news, cet oxymore anglo-saxon dont vous avez sans doute déjà entendu parler.
Vous avez remarqué, comme ces deux petits mots se sont imposés à nous ces derniers temps. Les fake news, ou fausses informations, elles se propagent à la vitesse de la lumière par les réseaux sociaux, jamais vérifiées, très souvent gobées.
J'adore
le
la
problème,
musique. J'adore la musique.
La réverbe est intense. Le proverbe, c'est que ces fausses informations peuvent altérer le jugement des électeurs, surtout le jour d'un scrutin. Ainsi, dimanche, des soi-disant SMS d'estimation provenant du ministère de l'Intérieur circulent sur les réseaux sociaux, sauf que ces SMS n'ont jamais existé. Dimanche toujours, quelques Français s'émeuvent de ne pas voir les affiches de Marine Le Pen dans les bureaux de vote à l'étranger. Aussitôt, des sites partisans crient à la magouille « c'est forcément un coup de l'État » et demandent l'annulation de l'élection. Là encore, ce n'est pas l'État qui est en cause, mais la candidate du Front National qui n'a pas envoyé à temps, c'était avant le 10 avril, ses affiches. Or, pas d'affiches envoyées par les candidats, quels qu'ils soient, pas d'affiches placardées.
Mais qui peut voir ces fausses informations alors ?
C'est ça qui est très très dur à mesurer. On a en France 33 millions de Français qui utilisent Facebook. Ce qui ne veut pas dire que 33 millions de Français ont été exposés à des fausses informations. Tout dépend de qui ils suivent, avec qui ils sont amis, ce que partagent leurs amis, etc. Mais ce qui est nouveau, c'est que les géants du web ont pris conscience en cette période d'élection de leurs responsabilités. Google vient d'annoncer aujourd'hui même des changements dans son moteur de recherche pour rendre plus visibles les contenus fiable et atténuer la portée des autres. Et Laurent Soli, sur cette même antenne à France Inter, c'est le directeur général de Facebook France, va plus loin. Il ne veut pas alimenter le business que constitue le marché des fausses informations.
Nous souhaitons réduire l'exposition de ces fausses informations pour notamment limiter les gains financiers de beaucoup de sites qui ont utilisé ce procédé des fausses informations, ce qui était notamment le cas aux États-Unis.
Alors là, il fait sans doute allusion à le roi des fake news aux États-Unis, un dénommé Paul Horner, qui a gagné jusqu'à 16 000 euros par mois pendant la campagne présidentielle américaine, car plus il avait de clics sur des contenus inventés de toutes pièces, plus cela générait des revenus publicitaires.
16 millions d'euros,
ah non, 16 000, c'est déjà pas mal.
C'est déjà énorme, 16 000 euros par mois, mais est-ce qu'il y a des auteurs d'infos bidons qui, en France, se font autant d'argent ou c'est encore un coup des Américains.
C'est plutôt un coup des Américains. Et en plus, cocorico, il semble que les Français soient moins promptes à relayer ce grand n'importe quoi, du moins sur Twitter, selon une étude citée par France 24 cette semaine. Ce qu'il y a de notable pour la campagne présidentielle française, c'est que les candidats eux-mêmes participent grandement à la déferlante, soit volontairement, comme François Fillon, qui, le soir de l'attentat sur les Champs-Élysées à Paris, prétend sur France 2.
On est en face d'un acte qui ressemble terriblement à un acte terroriste. On nous laisse entendre qu'il y a d'autres violences ailleurs dans Paris.
Non, il n'y avait pas d'autres violences ailleurs
dans Paris.
Il avait
déjà commencé avec le prétendu suicide annoncé de sa femme dans la presse.
Voilà, et soit les candidats y participent involontairement, et ça c'est plutôt le cas d'Emmanuel Macron qui est très ciblé par ses attaques, que n'a-t-on pas lu sur lui qu'il serait financé par l'Arabie Saoudite, qu'il voudrait intégrer la Turquie à l'Europe. Bref, tout y passe et tout est faux.
Il a même une liaison avec la fille de sa femme. C'est ça qu'on peut lire aussi.
C'est une communauté sur un forum qui veut faire monter cette rumeur pour le déstabiliser. C'est assez ignoble.
Des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Oui, peut-être Olivier de Smet.
François. Mais c'est pas grave.
C'était très beau aussi, Olivier de Smet. Moi, j'ai adoré.
Écoutez, ça le fait.
Non, mais c'est François de Smet.
Ça le fait. Ce sont des bulles qui se créent, les fake news. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook et vous n'allez voir que les contenus auxquels vous êtes habitué. Vous êtes d'un parti. Vous allez cliquer toujours les contenus qui vont vous favoriser. Les algorithmes font que vous êtes enfermé dans des bulles. Et c'est ça le risque, parce que les fake news utilisent des médias non traditionnels et en plus sont utilisés par des gens qui utilisent le fait que les médias traditionnels roulent pour les élites, roule pour les puissants, et ça recoupe le clivage dont on va peut-être parler, qui est la seule chance pour Marine Le Pen d'éventuellement gagner, c'est d'alimenter ce clivage entre les élites d'une part et les couches populaires dont elle serait à présent la seule représentante contre le système d'autre part. Donc oui, dans cet électorat-là, par exemple, je suis sûr que ça joue réellement.
Encore quelque chose sur les fake news. Dans votre documentaire, Benjamin Carle, vous parlez du rôle des cellules riposte. Qu'est-ce que c'est, les cellules riposte?
Les cellules riposte, ça marque la professionnalisation de l'entre-deux-tours. C'est comment les deux candidats, grâce à des équipes qui auparavant étaient composées principalement de porte-flingues, essayaient de taper concrètement, de taper sur le candidat opposé. Aujourd'hui, les cellules riposte, elles se sont démultipliées, elles se sont organisées sur Internet. Ça s'est beaucoup vu en 2012, notamment sur Twitter, qui était encore un réseau relativement nouveau en 2012. Et cette année, ce qui va se passer, ou ce qui est déjà en train de se passer, c'est que ces cellules ne sont plus du tout organisées, elles ne sont plus du tout maîtrisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, chacun se fait le porte-voix, le porte-parole du candidat qu'il soutient ou qu'il aurait aimé voir au second tour. Ce qui donne finalement une sensation de où l'information se mélange à un sentiment, une déception, à une haine face au candidat d'en face, où on va voir, on le voit très bien en ce moment sur les réseaux, il faut pas avoir une bulle très restreinte pour le voir, des supporters de Marine Le Pen qui vont utiliser des arguments de Jean-Luc Mélenchon pour défoncer le candidat Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça un peu la cellule riposte aujourd'hui.
C'est fait de bonne foi, c'est-à-dire que quand quelqu'un partage là sur un réseau social, c'est pas franchement pour nuire au départ, c'est souvent parce qu'il croit sincèrement effectivement ce qu'il voit écrit.
Alors, on va parler de ce que l'on peut attendre du second tour aujourd'hui. Et dans vos documentaires, vous avez fait une analyse, c'est-à-dire qu'entre les seconds tours, les candidats changent systématiquement les candidats veulent changer leur image. On vous écoute, Benjamin Carle, dans votre documentaire.
Au second tour, les candidats essaient de se donner une image plus présidentielle. L'objectif est de montrer qu'on a la stature. Cette volonté de changer d'image se confirme dans les clips de campagne diffusés durant l'entre-deux-tours. Le favori continue sur sa lancée et apporte la touche finale à sa victoire. Le challenger, lui, tente d'expliquer et de convaincre qu'il peut rassembler. L'exemple le plus flagrant de cette volonté de changer d'image pour se mettre dans la position du favori, voire du président, c'est celui de Jean-Marie Le Pen, qui en 2002 a pris l'étape du changement d'image au pied de la lettre.
Je vous invite à regarder avec moi ces images d'un Français du peuple, comme vous. Ça, c'est l'école primaire de la Trinité-sur-Mer. En 39, je tiens la petite pancarte. Là, se fait de la planche à voile.
Benjamin Carle. Alors c'est vraiment un changement d'image. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'il va y avoir un changement d'image, là, pour cette élection? L'image d'Emmanuel Macron et l'image de Marine Le Pen.
Marine Le Pen a commencé à changer.
Ce sera totalement flagrant. Ce sera toujours plus flagrant chez le challenger.
Donc le challenger, c'est
Marine Le Pen, concrètement.
C'est lui qui doit faire le plus de chemin.
Marine Le Pen a abandonné la présidence momentanément du Front National pour justement se dégager de l'image qui peut être négative.
Ça lui coûte pas cher de faire ça pendant 15 jours.
Si on part du principe qu'au second tour, il faut rassembler, au-delà de sa famille politique, quand bien même cette famille politique est très nouvelle dans le cadre de l'élection actuelle, il faut bien voir que ça ne peut pas se faire sur la base de l'éloignement ou du rejet du reste. Donc du coup, ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2002, c'était de dire, voilà, je suis un enfant du peuple, il montre ses photos.
Oui, on le voit en train de faire de la planche à voile.
Au salon de l'agriculture, il se compare au taureau, les deux champions du salon de l'agriculture.
Macron dit la même chose en ce moment. Il dit « Je suis un enfant du peuple, j'ai grandi avec Milo. »
Oui, mais la différence, c'est que lui n'est pas connu. Marine Le Pen, en fait, tente quelque chose d'autre. Elle risque de changer de slogan, elle risque de changer d'affiche, elle risque de changer un tout petit peu d'image, peut-être même de couleur sur ses affiches. Il peut y avoir ce genre d'éléments-là, très symboliques, pour essayer de changer d'image. Emmanuel Macron, lui, aura juste à essayer de se faire mieux connaître, un peu plus connaître, mais ce sera un peu différent.
François de Smet, vous pensez, justement ?
Je sais que l'arithmétique plaide vraiment pour qu'Emmanuel Macron gagne et que quoi que façon sa challenger, ça n'arrivera, elle ne peut pas gagner. D'un autre côté, un schéma, un scénario dans lequel Marine Le Pen pourrait gagner serait celui-ci, c'est-à-dire si elle peut parier sur une abstention extrêmement large, parce que tout le monde pense que c'est gagné, et dans un contexte complètement inédit, où on ne sait pas ce que vont faire les électorats de la gauche et de la droite qui là sont chaos, mais sont toujours là, et vont se réveiller demain ou plus tard dans les législatives et seront furieux de part et d'autre, à mon avis. Là, il y a un vrai risque, surtout si elle continue à jouer sur ce clivage qu'elle commence à taper. Je parlais du clivage entre les élites et la population.
Oui, et voir Macron, l'argent chose... roi, les élites arrogantes.
Et c'est pas seulement l'élite de l'argent. Il y a un petit côté élite intellectuelle. Quand elle cible Macron en débat, en disant « Je comprends, vous venez de parler une minute, et je ne comprends rien à ce que vous voulez dire », elle parie aussi là-dessus. Parce que ce qu'elle peut pas dire ouvertement, mais ce qui se voit, c'est que ce jeune homme qui a 39 ans, qui a très bien réussi, qui a aussi eu du talent, une chance incroyable par ailleurs, mais la chance est aussi une compétence parce qu'il faut pouvoir la saisir. Au fond, il réussit en une année ce que des hommes politiques essayent de faire sur 40 ans. Donc, il y a le côté... Il fait le malin. Et forcément, ça complexe beaucoup de gens. Je crois que 90% du spectre politique le déteste un petit peu pour ça. Et elle joue là-dessus, sur l'idée, on est face à une élite qui est non seulement financière, mais intellectuelle, vous, le petit peuple, qui êtes méprisé. Et ça, c'est un fact, c'est un ressort puissant, surtout si vous combinez avec de l'abstention.
Alors justement, qu'est-ce que lui, il va devoir changer dans son image ?
Je voudrais quand même revenir sur des points qui me paraissent importants. L'image, c'est quoi ? Ce sont les photos aussi. On parlait de Jean-Marie Le Pen. Rappelez-vous de son dépliant du second tour.
Le second tour, il était magnifique, on aurait dit une pub pour Dior.
Ça, c'est l'image. Et justement, il y avait un contraste saisissant entre cette affiche pour le premier tour, qui était franchement pas, qui était ratée.
Il était en costume.
Avec des lunettes carrées, avec des gros joues, avec des cheveux blonds. Et là, cette image qui contraste totalement. Donc, il y a ça, l'image. Et Marine Le Pen, cette image, elle la change depuis des années, cette image d'elle-même. Et évidemment, l'image de son parti. Alors, quand on vient à parler du peuple, c'est évidemment principal, dans le sens que, quand vous allez à Hénin-Beaumont, qui est la vitrine du Front National, vous allez voir Steve Briouat, qui est le maire qui a été élu au premier tour pendant les municipales. Il y a le bus de Jean Jaurès derrière lui, c'est l'image aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rend la parole, comme il dit au peuple. Mais c'est super intéressant d'aller se promener avec lui au marché. C'est une équipe très douée. Donc c'est quoi rendre la parole au peuple ?
Marine Le Pen était à l'espace François Mitterrand pour le premier tour.
Bien sûr, c'est là qu'elle mais il y a tout ça dans l'image. C'est pour ça qu'on revient sur les photos, sur la façon symbolique de s'adresser
à
ce peuple.
Encore une fois, lui, qu'est-ce qu'il va devoir changer dans son image ?
C'est la toute petite nouveauté de cette élection, parce que finalement, la carcasse, les institutions, reste. Mais là, en fait, on va passer à deux candidats héros. C'est Boris Cyrulnik que j'ai interviewé dans le psychiatre, que j'ai interviewé dans le documentaire, qui me dit ça. En fait, on est face à deux candidats qui, pendant 15 jours, vont dire « c'est moi ou le chaos ». Parce que c'est deux choix de société qui se font face. Et du coup, ce sera toujours à choisir entre ça. Donc, quelque part, là, l'image renvoyée, l'image choisie, va faire peu de poids face à cet argument-là, qui est un argument quasi d'autorité.
Donc, à cette question que j'ai posée l'image, qu'est-ce que Emmanuel Macron doit changer dans son image ? Chaque fois, vous m'avez répondu sur Marine Le Pen. Oui.
Ben, je vais vous répondre sur Macron. Il faut qu'il fasse un progrès dans le verbe. Parce que la nation dont je parlais, je reviens à mon duo démocratie-nation. Démocratie, il est très fort, l'Europe, tout ça, les valeurs. En nation, dans l'idée, la France du terroir qui se promet un avenir, il n'y a rien à faire. Il y a eu beaucoup de présidents de la République, pas tous, mais quasiment tous, trouver la manière de parler, trouver une emphase, était des tribuns. Malgré tout, avec tout le talent qu'il a, quand j'écoute Macron, quand je le vois, j'arrive pas à aligner le son et l'image. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas emmené, et à mon avis, je suis pas le seul. Ça manque. Je sais pas comment le travailler, je suis sûr qu'il est coaché, mais il manque quelque chose que même Marine Le Pen a pour l'instant un petit peu plus que lui.
Eh bien alors lui, il ne lui manque rien, il est percussif et épuré, c'est même une question d'esthétique pour Mathieu Bogart.
Des bas de laine, un petit feu, une canadienne avec les yeux bleus, mes doigts se promènent dans ses cheveux. Voilà la scène et me voilà heureux, heureux. Si tu savais, en fait jouer un peu, moi c'est tout ce que je voulais. Une paire de bottes, une camionnette, elle un peu saute, elle ma majorette. culotte sur la banquette, même que zouzoute. Et voilà, c'est chouette, si tu savais jouer un peu, en fait. Moi c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est chouette, si tu savais. Je sais, je le répète, mais c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Oui, c'est tout ce que je voulais. Vraiment. Des talons hauts dans le bureau, incognito dans le scénario, ou un tailleur dans l'ascenseur, 5 à 7 heures, que du bonheur. Qu'elle me menotte, qu'elle me soumette, qu'elle me ligote dans la cachette, sur les velours, sous les miroirs. Elle est juste pour la petite histoire. Oh là là là, oh oui, quand c'est comme ça, bah c'est beau la vie. Tout le cinéma, tous les scénarios, je ne voulais que ça. Voilà, c'est dit, moi c'est tout ce que je voulais. Ben voilà, je l'ai fait.
Bas de laine, c'est le titre, hein. Je ne sais toujours pas ce qu'il y met. Mathieu Bogarde sera en concert tout près de chez vous et tous les mercredis, il est à la Java, à Paris.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Vous avez intérêt à avoir une tête de gendre, à parler comme au cinéma. Les arguments sont tout à fait secondaires. Le programme, vous ne le tiendrez pas mieux que les autres. Donc vous avez intérêt à provoquer l'extase amoureuse, servir ce qu'espèrent les gens. Et dans ce cas-là, vous aurez une chance d'être élu président. Et après, vous viendrez me voir parce que vous allez déprimer.
Sur France Inter.
Il ne perd pas le Nord. Super. Boris Cyrulnik en entend dans votre série documentaire « Comment gagner une élection présidentielle, Benjamin Karl ». C'est le sujet du NRV ce soir. On en parle avec François de Smet, vous êtes philosophe. Avec Valérie Gounet, vous êtes historienne et journaliste. On peut dire que c'est un travail aussi de journaliste. Vous vouliez reprendre la main.
Oui, non, c'est parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Là, d'ailleurs, Boris Cyrulnik allait dans ce sens-là. C'est le fait, puisqu'on va peut-être parler aussi du futur, des autres rounds de ces élections.
Le troisième tour.
Complexe ce qui se passe. C'est le fait qu'au fond, pour être élu, il faut sortir des clichés rassurants. Et là, ça me renvoie directement à votre livre « Lost Ego » François de Smet, parce que dans votre livre, vous dites, il y a une phrase que j'ai trouvée très, très forte, vous dites « L'individu retrouve sa zone de confort dans le conformisme davantage que dans la rébellion ». C'est ça qui est au cœur de votre propos.
Oui, parce qu'en gros, pour le dire vite, nous avons plutôt une nature conformiste. Je crois que l'évolution nous a dotés d'un cerveau et de capacité à nous conformer en permanence les uns vis-à-vis des autres. C'est comme ça qu'on a survécu.
La docilité même.
Oui, bien sûr, dans un groupe de proto-humains, d'homo sapiens de base, il y en a un qui crie un peu plus fort et les autres qui suivent. Sinon, vous vous organisez pas hiérarchiquement et vous mourrez. Mais à côté de ça, nous avons développé une culture de liberté, d'égalité, de valeur. C'est pas parce qu'elle est construite d'ailleurs qu'elle n'a pas de valeur en soi. Et je crois, moi, que c'est la tension entre les deux. C'est entre notre nature de suiveur, de conformiste ou de dominateur et de soumis, et nos valeurs égalitaires, libertaires, où on doit absolument être libre, égaux et savoir ce qu'on va faire de vie. C'est cette tension-là qui fait la fortune des psychanalystes. Ça, j'en suis convaincu. Et dans un phénomène électoral, ça fait des régimes. On aurait pu choisir, au 18e, 19e, des démocraties fondée sur autre chose que sur l'élection. Par exemple, sur le tirage au sort. C'est un truc qui revient de temps en temps à la mode. On l'a pas fait. On aime bien se choisir des gens qui vont nous diriger et qui seraient peut-être d'ailleurs les mêmes s'il n'y avait pas d'élection. On aime bien avoir ce côté un petit peu saillant. Au fond, la question, c'est est-ce qu'on vote pour des idées ou des personnes ? Eh bien, le système français, avec cette élection présidentielle, qui est en fait invraisemblable, mais
fascinante, fait qu'on vote pour des personnes, c'est ça.
Fait qu'on vote avant tout pour des personnes. Je ne suis pas sûr que tous les électeurs pourraient citer 5 points du programme d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen.
Alors justement, parlons du futur. Pour le troisième tour, quels enjeux pour les législatives ? Comment vous voyez les enjeux dans les deux cas ? Marine Le Pen et Emmanuel Macron peuvent-ils construire une majorité, d'après vous, Valérie Gounet ?
Dans le cas de Marine Le Pen, je ne pense pas. Dans le cas d'Emmanuel Macron, je ne le pense pas trop non plus, mais c'est plus probable.
Ah ben, ça veut dire...
ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on l'oublie à chaque fois, mais on est en train d'élire une personnalité qui deviendra, dans le quart d'heure qui suit son élection, la personnalité la plus détestée des Français. Et c'est encore plus vrai sur une élection avec cette cette formation-là ou finalement ce casting-là, c'est qu'en fait, la popularité et l'emballement qui peut suivre va être relativement limité dans les deux cas, parce qu'il y aura des forces vives. On a quand même quatre candidats qui sont autour de 20%, alors certains plus autour de 25%, certains plus autour de 18%, mais on a quand même quatre forces comme ça. Des forces, le Parti Socialiste qui a quand même, s'il a été ravagé, il y a un ancrage local qui est très fort pour une élection qui, je le rappelle, a une portée nationale, mais qui est quand même une élection qui se fait au niveau local. Du coup, ça va être un léger
foutoir.
Donc
Macron pourrait se retrouver en cohabitation s'il était élu.
Il a annoncé tout à l'heure sur France 2, sur le plateau de France 2, que parmi cette majorité qu'il espère constituer, il faudra que les candidats des Républicains et du Parti Socialiste démissionne pour épouser le Parti En Marche et pour être donc éligible aux législatives.
Alors, ça va vraiment être intéressant parce que c'est un vrai test des institutions de la Ve République où d'habitude, les législatives qui suivent une présidentielle, on donne gentiment sa majorité au président. Là, je le répète, on a toujours une gauche, il y a toujours une droite dans ce pays qui sont chaos mais qui vont se réveiller et qui sont furieuses, qui ne vont pas toutes se rassembler autour de Macron. Donc il est probable qu'il y ait un bloc En Marche, un bloc à gauche, plus à gauche que d'habitude, un bloc à droite, plus à droite que d'habitude, et un FN. Et donc, à mon avis, Emmanuel Macron, à moins qu'on retombe dans la 4e République, ce qui sera intéressant, avec un président de la 5e, va être obligé de pencher à gauche ou à droite nécessairement, et peut-être d'être à la merci des uns ou des autres. Je vois, à moins qu'il y ait une majorité absolue en marche, et c'est peu vraisemblable parce que les élections législatives, ça fonctionne aussi avec du local, avec des ancrages locaux. Il va devoir être obligé de choisir.
C'est pas le retour à la 4e République, ça, au fond, d'avoir comme ça une sorte de président du Conseil qui oscille, qui est un petit peu à droite, un petit peu à gauche.
Il a plus de pouvoir, un président de la 5e. Mais les institutions sont pas faites pour fonctionner comme ça, donc on va vite arriver à un système. Il va pas pouvoir se maintenir au centre. Moi, je crois toujours au clivage gauche-droite. Il va se reformuler d'une autre manière nécessairement. Et il va devoir choisir.
Vous n'êtes pas vraiment d'accord, hein, Valérie Gounet,
non,
et ensuite
Benjamin. Moi, ce que je voulais seulement souligner, c'est pas un désaccord, c'est que je vais quand même parler du Front National aussi pour les législatives. Dans le cas où le plus probable, quand même, où Emmanuel Macron devient président, le Front National travaille. C'est l'enjeu de 2017 pour le Front National. Ce sont les législatives, hein, pour plusieurs raisons. Et il y travaille depuis très longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une formation des élus quasiment impeccable, on va dire entre guillemets, ne pas recommencer les municipales. Donc des élus très préparés, des élus très ciblés, des territoires très ciblés aussi. On voit bien ce qui se passe dans le Nord, dans ces bastions du FN, qui se confirment encore lors de ces élections présidentielles. Ça veut dire, je pense que là, nous allons avoir, non pas une surprise, mais justement des députés, un nombre de députés assez important au Front National.
Benjamin Carme.
En fait, j'ai beaucoup de mal à imaginer le cas d'une législative dans le cadre d'une victoire de Marine Le Pen, non pas que je n'y crois pas, mais parce que principalement j'ai du mal à imaginer la réaction que ça aurait dans la population. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on oublie en fait beaucoup dans ces calculs le potentiel d'adaptabilité, voire de résilience du peuple. Comment on peut imaginer que en un mois et demi, les Français ne seraient pas capables de s'adapter à une situation alors qu'ils ont porté au second tour des candidats dont un principalement qui existait guerre, il y a un an et demi. Parce que finalement, ce qui apparaît comme une nouveauté ou quelque chose d'inédit pour, on va dire, le commentaire politique, l'analyse, et finalement a été perçu de façon très normale par les électeurs. Du coup, il se peut aussi que de façon finalement très classique dans la Ve République, on se retrouve avec des électeurs qui, eh ben, bon an, mal an, avec peut-être les gants ou les pinces, comme disait Mélenchon en 2002, iront voter pour les candidats En Marche, quels qu'ils soient, parce qu'après tout, ce serait dommage de bloquer le pays alors qu'on vient de se faire un an et demi compliqué.
J'y crois un peu moins parce que ce réflexe qui existe dans le clivage gauche-droite habituel avec des partis institués. S'il faut voter pour des gens En Marche qu'on n'a jamais vus, le pas n'est pas impossible, mais il me paraît plus difficile à faire. Mais
ça au niveau local, ouais.
Ça
va être fascinant à suivre. Il y aura des changements, il y aura une vaste étiquette qui sera fascinante à suivre, ça c'est sûr.
Pensez vraiment qu'il y aura un changement d'étiquette, vous, les fantômes?
Mais en tout cas, je crois que c'est une des conditions qui a été affichée par Emmanuel Macron. Et c'est vrai que si l'élection se fait aussi sur la disparition des partis historiques, est-ce que ça ne serait pas effectivement la nouvelle dynamique?
Christophe Bourseiller, le mot de la
fin. Moi, je crois qu'effectivement, on est là dans un moment extrêmement intéressant, parce que si le paysage politique explose, si on voit un bloc frontiste avec des gens des républicains décrochés, Philippe de Villiers, Christine Boutin et d'autres, Nadine Morano, qui se rapprochent de ce bloc frontiste, on va voir vraiment quelque chose d'évoluer complètement. À gauche, on va bien voir autour de Mélenchon se reformer toute une sorte de nébuleuse dans laquelle on va retrouver l'électorat de Benoît Hamon. Et donc, c'est vrai qu'au fond, on se demande à quoi va ressembler le paysage politique. L'Italie a vécu une explosion du paysage politique analogue il y a une dizaine d'années.
Eh bien, merci à vous trois. Merci Benjamin Karl. Je rappelle que la série documentaire « Comment gagner une élection présidentielle » est diffusée actuellement sur Planète Plus. Valérie Gounet, deux livres. « L'illusion nationale », votre enquête roman photo documentaire apparu aux éditions Les Arènes, revue 21. Et « Les Français d'abord, une histoire des slogans et viralité du discours Front National de 72 à 2017 ». C'est aux éditions Inculte. Et enfin, François de Smet, « Lost Ego, la tragédie du « je suis » vient de paraître aux éditions Presse Universitaire de France. Merci à vous, merci Alice Santo. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Christophe Bourseiller. On va se retrouver très vite. Demain au bureau, j'espère bien.
Demain au bureau.
Je ferai l'appel. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous réécouter, nous podcaster, nous suivre sur Facebook, Twitter avec le hashtag NRVFI. Demain, on se retrouve 22h minuit. On sera là avec ça.
De toute façon, tous ceux qui l'ont vécu, nous ne sommes jamais sortis de la Shoah.
Demain, mercredi, eh bien, on pensera à dimanche qui sera la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation avec nos deux invités, Diane Ducré et Marie Rameau, qui chacune raconte l'histoire des femmes dans la déportation. Et dans le NRV La Suite, art contemporain, l'Afrique s'expose à Lille, à la Villette, à la Fondation Louis Vuitton à Paris. On en a partout et on en prend plein les yeux. Je crois que tout est dit. Je remercie tout le monde. Pas la technique, je vais le faire. La réalisation, merci à tous, merci à toutes. À demain.